connaissances et témoignages. Présenté par Anne Bernet, l'abbé Guérin.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mgr Ayé, évêque de Bayonne, Escar et Oloron, qui nous fait l'honneur et le plaisir de participer à cette émission. Bonjour Mgr, merci de votre participation. Mgr, vous êtes depuis 2008 l'évêque de Bayonne. L'une de vos premières initiatives fut de rouvrir le séminaire diocésain qui compte maintenant, me semble-t-il, plus de 20 séminaristes. Vous avez en juin procédé à 2 ordinations sacerdotales. Quelle est, selon vous, l'importance du prêtre et du sacerdoce catholique dont notre abbé Guérin représente une remarquable et admirable figure?
Voilà, donc c'est vrai que je pense que la première charité pastorale du Christ Jésus dans l'Évangile, telle qu'elle est exprimée par les évangélistes, c'est précisément de donner des pasteurs à son peuple. Vous avez évidemment à l'esprit le passage de l'Évangile où Jésus est saisi de pitié par ces foules qui étaient comme des brebis sans berger. Et à ce moment-là, il dit « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Et puis, on voit que joignant le geste à la parole, chez saint Luc, Jésus passe toute une nuit en prière et le lendemain, au petit matin, eh bien, il appelle les 12, hein, les 12 apôtres qu'il enverra en mission pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et être les pasteurs selon le cœur de Dieu que Dieu veut donner à son peuple. Donc je pense que la première charité pastorale de l'évêque, c'est de donner des pasteurs à son peuple. Hein. C'est la constitution de l'Église que Jésus compte sur des hommes choisis parmi les disciples, configurés au Christ tête et pasteur de l'Église par le sacrement de l'ordre, pour que l'Église puisse eh bien, fonctionner comme le corps du Christ, hein, avec ses 3 grandes missions du prêtre, l'enseignement, la sanctification par les sacrements et la conduite pastorale du peuple de Dieu. Et donc c'est pourquoi il m'était très important dans un diocèse qui a une riche histoire vocationnelle, mais qui n'avait plus qu'un séminariste, et bien donc un clergé encore nombreux mais vieillissant, il m'a semblé très important de faire un acte de foi et d'ouvrir en 2009 une propédeutique, et puis finalement toutes les années du séminaire. Et aujourd'hui j'ai 34 jeunes, en comptant les 3 propédeutes de cette année et les 3 diacres que j'ai ordonnés l'an dernier, qui se préparent au sacerdoce pour le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron.
Apparemment, l'acte de foi a porté ses fruits, Mgr.
Alors, l'acte de foi était lié, il faut dire, à une... Et je crois que c'est votre deuxième question, mais...
Oui, vous avez institué une heure d'adoration avant d'ouvrir le séminaire, à cette intention.
Alors, en fait, si vous voulez, je me suis demandé comment on allait faire pour que le renouveau des vocations sacerdotales puisse advenir dans ce diocèse, encore une fois de vieille tradition chrétienne, où il y a encore un gros potentiel. Hein. Et je me suis souvenu, en arrivant dans le diocèse, que le Saint-Siège avait envoyé, en 2007, une circulaire à tous les évêques du monde entier, pour qu'ils ouvrent dans leur diocèse au moins une chapelle d'adoration perpétuelle, pour obtenir des vocations sacerdotales. Donc c'est la première chose que j'ai faite. J'ai ouvert une chapelle d'adoration perpétuelle à Bayonne et une chapelle d'adoration perpétuelle à Pau. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui à peu près 500 à 600 fidèles, il y a des prêtres, il y a des consacrés, mais il y a beaucoup de fidèles laïcs, évidemment en grand nombre, qui adorent à raison d'une heure d'adoration par semaine, 24 heures sur 24 dans ces 2 chapelles. Et je dois dire que c'est cette prière-là, j'en suis intimement convaincu, qui est la source des vocations qui arrivent. Alors, il y a des jeunes qui viennent de l'extérieur, parce que les jeunes sont très mobiles, comme vous savez aujourd'hui, mais il y a aussi maintenant des jeunes qui, de l'humus, on va dire, local, du terroir basque ou béarnais, frappe la porte, à la porte du séminaire.
Il est vrai, Mgr, que passer d'un séminariste à 34, nous avons là quelque chose qui relève en effet de l'intervention divine.
Absolument. C'est certainement pas ni l'évêque, ni les entreprises humaines que nous avons mises en œuvre, mais c'est vraiment un don de la grâce. Hein, et c'est encore une fois, j'allais dire, la fécondité de la prière et la prière du peuple chrétien.
Pouvez-vous, Mgr, parler, dans le même optique, de la place de la messe et du sacrifice eucharistique dans la vie de l'Église, dans celle des prêtres et celle des fidèles?
Vous savez, c'est le Concile Vatican II, hein, dans sa constitution sur la Sainte Liturgie, qui a rappelé à l'envi, et de manière très soulignée, que l'Eucharistie, le sacrifice eucharistique est vraiment la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Et donc il est évident que c'est, comme disait le père de Lubac, qui est un grand théologien qui a beaucoup travaillé au renouveau de la théologie avant le Concile et qui a participé au Concile comme expert, qui disait c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, et si c'est aussi l'Église qui fait l'Eucharistie. Donc c'est le sacrifice qui nous sauve. Il est évident que, comme dit le Concile, il n'y a rien, aucune action, aucune activité dans l'Église qui peut égaler le sacrifice eucharistique, qui est le lieu même de notre rédemption, l'œuvre de notre rédemption qui continue.
Monseigneur, vous aimez à dire que la vie chrétienne doit être à l'école de Marie. Qu'entendez-vous par là et quelle est, selon vous, la place de Notre-Dame dans l'Église et que devrait-elle être ?
Alors c'est évident que, en bon disciple de Jésus, je suis forcément une âme mariale, la Vierge
Bien
Marie.
Sûr.
Est indissociable de Jésus. Comme dit Saint Louis-Marie de Montfort, si Dieu est passé par Marie pour venir jusqu'à nous, il faut que nous aussi nous passions par Marie pour aller jusqu'à lui. Et on voit bien dans l'Évangile que si la Vierge Marie a toujours une place extrêmement discrète, elle a une place fondamentale dans l'œuvre de notre rédemption. Je fais partie de ceux, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, mais qui pense que la Vierge Marie, qui a été à l'époque moderne, depuis 1854 en particulier, déclarée solennellement immaculée depuis sa conception, puis en 1950 le dogme de l'Assomption, qu'elle a été élevée au ciel dans son âme et dans son corps, dès le terme de son pèlerinage terrestre, dans la gloire de son Fils ressuscité, aimerait que l'on parle davantage de la co-rédemption universelle de la Vierge Marie et de sa médiation. Médiation maternelle de Marie qui a été soulignée particulièrement par le pape Jean-Paul II, qui est le pape marial par excellence, au moment où l'Église entrait dans le troisième millénaire chrétien. Et donc je pense qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans une dévotion au sens le plus fort du terme à Marie. Hein, et que, comme dit Saint Louis de Montfort, quand je dis Jésus, l'écho me répond Marie. Et quand je célèbre la messe, que j'entends ces paroles par lesquelles le Christ a institué les premiers prêtres et institué le sacrifice eucharistique, faites cela en mémoire de moi, eh bien, je fais en mémoire non seulement les paroles de la consécration, mais qui me renvoient réellement à la croix, et à la croix, au pied de la croix, il y avait Marie. Donc Marie est nécessairement là, vous voyez, qui offre son Fils, comme l'âme qui nous apprend justement à participer pleinement au sacrifice de son Fils.
À Jésus par Marie, selon la formule montfortaine, Monseigneur.
Voilà, tout à fait.
Votre diocèse compte plusieurs sanctuaires mariales importants. Je pense d'abord à Notre-Dame de Bétharram, à l'Estel, qui fut fondée en 1394 à la suite de la découverte au bord du Gave d'une statue de Notre-Dame par de jeunes bergers. Pourriez-vous nous parler de ce lieu et évoquer son histoire ?
Alors c'est un pèlerinage magnifique que vous signalez en effet la découverte de cette statue. Je crois qu'en plus c'est lié, alors on dit la légende, mais la légende c'est en latin, c'est legenda, c'est ce qui se lisait, donc ce qui se transmettait. Et donc nous n'avons aucune raison de douter de ce fait. Au XIVe siècle, donc au tout début de l'histoire de Bétharram, il y a ce fameux miracle de la Vierge Marie, d'une dame donc, qui vient au secours d'une jeune fille qui se noie dans le Gave, un endroit où le Gave est très impétueux justement au pied de ce qui est aujourd'hui le sanctuaire de Notre-Dame de Bétharram, et qui lui tend un rameau. D'où le mot de Bet-Aram, c'est-à-dire le beau rameau en béarnais. Et c'est vrai que c'est surtout au XVIIe siècle, semble-t-il, que la dévotion a grandi parce qu'il y a eu de nombreux miracles qui ont été recensés comme authentiques à ce moment-là, donc à Bet-Aram. Et donc c'est un lieu marial qui était très important. Saint Vincent de Paul disait même, je crois que c'était le, sinon le second, en tout cas le troisième lieu marial le plus important du royaume de France. Donc c'est dire l'importance de ce sanctuaire de Bétharram dans l'histoire.
Est-ce pour cela d'ailleurs que pendant les guerres de religion, la reine Jeanne d'Albret le fit détruire avant que son petit-fils Louis XIII veille personnellement à sa reconstruction ?
C'est ça. Alors c'est très intéressant parce que c'est là le renouveau de Bétharram, n'est-ce pas? Les guerres de religion ont été extrêmement destructrices ici dans notre Béarn et dans cette région du Béarn. De fait, Jeanne d'Albret s'est acharnée contre ce sanctuaire marial. Et c'est en 1615 que l'évêque de Lescar a rétabli le culte catholique à Bétharram, donc en 1615. Et en 1616, l'archevêque d'Auch, puisque ça dépendait de l'archevêché d'Auch à ce moment-là, est venu solennellement ériger une grande croix sur la colline qui est au-dessus de Betaram, en signe sans doute, comme un mémorial de cette, j'allais dire à la fois de ce rétablissement du culte catholique, mais peut-être aussi en signe de réconciliation aussi entre les catholiques et les protestants, alors qu'on sortait de ces guerres difficiles et que la paix était rétablie dans le royaume. Et à ce moment-là, donc ça c'est en juillet 1616, et en septembre, donc sans doute près autour de la fête de la Sainte-Croix, les gens de Montaut, le petit village qui est non loin de Betaram, ont vu dans une tempête la croix affaissée. Et ils ont vu aussi le miracle de la croix qui se relevait dans un halo de lumière. C'est ce qu'on appelle le miracle de la croix de Betaram, dont nous avons célébré cette année eh bien, le quatrième centenaire, les 400 ans, avec un très beau pèlerinage. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu quand même emblématique de la restauration hein, du culte catholique, qui tourne autour de Marie, bien sûr, et de la croix. Mais Marie, le sanctuaire, est effectivement au pied de la croix. Elle se tenait, douloureuse mais dans la foi, au pied de la croix.
Ce qui frappera, Monseigneur, beaucoup nos auditeurs mayennais qui se souviendront qu'à Paumelle, la Sainte Vierge apparaît en tenant le crucifix sanglant entre
C'est
ses
vrai.
Mains.
Absolument, oui.
Après la révolution à laquelle le sanctuaire a échappé de manière assez providentielle, me semble-t-il, Betaram est rouvert au culte. En 1838 s'y installent les pères du Sacré-Cœur, dont l'un sera un jour canonisé, c'est Saint-Michel Garicoïtz. Pourriez-vous nous parler de lui, nous dire quelle importance revêt sa personnalité pour votre diocèse?
Alors Saint-Michel Garicoïtz est un basque de Ibar, qui se trouve, ou Saint-Just Ibar, comme on dit, donc fils de paysan, de ce petite région qu'on appelle l'Ostibarais, où se trouve Ostabat, qui est bien connu des pèlerins de Saint-Jacques, parce que c'est le lieu où se croisent toutes les grandes routes historiques de Saint-Jacques avant de passer à Saint-Jean-Pied-de-Port, de l'autre côté des Pyrénées, et de rejoindre le Camino Frances à Puerto de la Arena. Et Saint-Michel Garicoïtz est donc un jeune basque qui sera très vite épris du Seigneur et qui va rentrer au séminaire et devenir prêtre. Il est contemporain, condisciple même au séminaire, d'un autre saint qui en tout cas vient d'être béatifié pour nous, qui est le bienheureux Louis-Édouard Sestac, qui lui est un grand dévot, un grand fils de la Vierge Marie. Et alors lui, Saint-Michel Garicoïtz, il sera très marqué par la dévotion au Sacré-Cœur de l'époque, en particulier quand il sera vicaire à Cambo-les-Bains, c'est aussi au Pays Basque. Et puis il est envoyé par l'évêque à Betaram, où l'évêque avait établi le séminaire, qui n'était plus à Bayonne à ce moment-là, mais à Betaram. Et il l'établit comme recteur du sanctuaire et recteur du séminaire. Et puis finalement le séminaire est retransféré à Bayonne, et lui restera comme recteur. Et là il va être en contact avec les filles de la Croix, et en particulier Sainte Élisabeth Bichet des Âges, qui est la fondatrice des filles de la Croix, qui a établi un second noviciat, non loin de Betaram, à Igon. Et c'est là qu'il dit recevoir les confidences de beaucoup d'évêques qui venaient prier à Betaram, se lamentant de l'indiscipline de leur clergé. Alors, c'est des choses qui sont anciennes, n'est-ce pas?
Oui.
Qui n'existent plus aujourd'hui.
Plus
et
du
alors,
tout.
Notre bon Michel Garicoïtz, eh bien, se dit, il faut que j'aide ces pauvres évêques qui se lamentent devant l'indiscipline de leur clergé, et il faut que je fonde une compagnie, une société de prêtres, qui seront complètement dédiés au Sacré-Cœur et qui auront la spiritualité du Sacré-Cœur. Pour lui, la spiritualité du Sacré-Cœur, elle est exprimée dans la première phrase, parole, qui est mise par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans la bouche du Verbe entrant dans le monde, « Me voici, je viens pour faire ta volonté ». Voilà. Il disait, on aura une compagnie de prêtres qui seront tellement dévoués au Sacré-Cœur qu'ils seront dans une obéissance absolue et ils iront là où les autres ne veulent pas aller. Et il a fondé donc la société des prêtres du Sacré-Cœur de Betaram, qu'on appelle vulgairement aujourd'hui les Betaramites. Et de fait, il a été canonisé assez vite. Il a eu à supporter un évêque difficile, qui était vraiment sa croix, et c'est d'autant plus vrai qu'il s'appelait Monsieur Lacroix, qui était un grand évêque par ailleurs, mais qui ne voulait pas que cette société de prêtres devienne un ordre religieux qui aurait échappé à son autorité épiscopale. Vous voyez. Et donc il a supporté ça avec beaucoup de patience, et puis finalement il est mort sans voir son œuvre se réaliser pleinement, et Monsieur Lacroix, le jour de ses obsèques, a fait son panégyrique. Vous voyez comment. Et finalement a laissé cette communauté devenir une congrégation religieuse.
Est-ce l'une des raisons, Monseigneur, qui vous a amené en 2014 à consacrer votre diocèse au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Marie?
Alors c'est sûr que j'ai deux saints là du 19e siècle, Saint Michel Garicoïtz, dévot du Sacré-Cœur, bienheureux Louis de Hersestack, qui est dévot au cœur immaculé de Marie, évidemment qui sont inséparables, les deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que la consécration au Sacré-Cœur, qui d'ailleurs a été l'objet d'une consécration de la France dans l'histoire, comme la consécration au cœur immaculé de Marie, qui nous est rappelée en particulier dans les apparitions modernes, mais je pense aussi à la consécration de la France à Marie par Louis XIII, par le vœu de Louis XIII, en 1638, eh bien j'ai toujours pensé que c'était un moyen pour nous de rénover la grâce baptismale, l'engagement du baptême, à la fois l'engagement à la sainteté et l'engagement à la mission. Et c'est pourquoi j'ai désiré faire cette démarche de consécration solennelle du diocèse aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie, il y a déjà maintenant 3 ans, qui était préparée par un long temps de cheminement spirituel avec les reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui ont pèleriné à travers le diocèse. Et j'en attends évidemment une rénovation spirituelle et puis une prise de conscience aussi, je dirais, de la vocation de notre pays, la vocation des chrétiens, de manière générale, dans notre monde difficile d'aujourd'hui, comme la Vierge Marie en particulier le rappelle partout où elle apparaît, aux heures les plus difficiles de notre histoire. Et bien sûr, je pense à Pontmain, bien sûr, aussi.
Le diocèse possède un autre sanctuaire marial ancien, c'est Notre-Dame de Sarens à Bédoué. Quelle en est l'histoire, Monseigneur?
Alors, c'est un peu semblable, vous savez, comme tous ces sanctuaires mariales, pense dans les Landes non loin de chez nous, à Buglose. On se trouve donc à l'entrée de la vallée d'Aspe, dans une partie de cette vallée qui est très encaissée, l'hiver très sombre et très austère, mais que, semble-t-il, Marie a choisi pour y être particulièrement vénérée. Et en effet, c'est encore un bouvier qui, c'est un bœuf, qui découvre dans le Gave une statue de la Vierge Marie. Voilà. Alors donc, cette statue est prise par les paysans, elle est emportée à l'évêque, on veut l'établir à Oloron, et qui est la cathédrale comme la plus proche. Mais non, la Vierge revient toujours au même endroit. Et finalement, on va ériger un sanctuaire là, à Notre-Dame de Sarens, qui est particulièrement invoqué pour la paix dans les familles.
C'est très important de nos jours.
Voilà, et la réconciliation. Et donc c'est un pèlerinage qui, grâce à un prémontré, d'ailleurs ce sanctuaire a appartenu au prémontré avant d'appartenir aux Bétharamites, donc vous voyez, il y a aussi un lien entre Sarens et Bétharam, et les Bétharamites, depuis que je suis évêque, l'ont cédé à nouveau au prémontré, et c'est un prémontré qui est curé de la vallée d'Aspe, qui a le grand souci de redonner un peu de lustre à ce pèlerinage Notre-Dame de Sarens, qui a lieu, lui, le 8 septembre, le jour de la Nativité de la Vierge.
Vous n'êtes pas très loin de Lourdes, Monseigneur. D'ailleurs, les parents de Bernadette étaient des fervents de Bétharam. Est-ce que cette proximité s'avère une concurrence, je mets des guillemets, ou au contraire une grâce?
Alors c'est sûr qu'on aurait pu penser que Marie, apparaissant à Lourdes, elle allait détourner les pèlerins de Bétharam. Je crois que ça n'a jamais été conçu comme tel. Saint-Michel Garicotte, d'ailleurs, avait été sollicité par M. Laurence, évêque de Tarbes de l'époque, pour recevoir Bernadette Soubirous et vérifier si ce qu'elle disait était vrai. Et il a répondu en sur Laurence, cette petite fille ne peut pas mentir. Donc pour lui, c'était évident que la Vierge Marie était apparue à Bernadette Soubirous. Et il disait, mais ça ne vous fera pas concurrence, vous verrez, il y aura encore plus de pèlerins Bétharam. Et c'est ce qui arrive, parce que je pense que le pèlerinage a eu des hauts et des bas, comme toujours, Bétharam, et que beaucoup de gens qui viennent à Lourdes, du coup, viennent aussi à Bétharam, vont faire des excursions dans les environs. Et donc, ça n'a pas paru comme une concurrence, au contraire, comme un apport de nouveaux pèlerins.
Monseigneur, il est un sujet que vous avez déjà légèrement abordé tout à l'heure, mais sur lequel vous n'avez jamais varié, fidèle toujours en cela aux positions de l'Église sur ces questions, c'est la défense de la vie, du respect de la loi naturelle. Selon vous, quel est le rôle de Notre-Dame au cœur d'une lutte que certains n'hésitent pas à qualifier d'eschatologique?
Vous voyez, aujourd'hui, c'est là. Aujourd'hui, où nous enregistrons cette émission, c'est la fête des saints archanges, Michel, oui, Gabriel et Raphaël. Et on lit, on peut lire en tout cas comme première lecture, le texte de l'Apocalypse, qui nous parle de ces deux grands signes qui sont apparus dans le ciel, ou que Jean voit en visionnaire, de la fin des temps, les deux grands signes. D'abord la femme, ce signe grandiose, couronnée d'étoiles, revêtue de soleil, et la lune sous ses pieds, donc à la fois l'Église sans doute, mais la Vierge Marie, qui est la première Église. Et puis le deuxième signe, c'est le dragon, que l'on appelle Diable et Satan, qui se tient devant la femme en train d'enfanter. et qui veut dévorer l'enfant mâle dès qu'il est né.
Naissance. Voilà.
Et donc c'est le grand combat eschatologique de la fin des temps, qui est évidemment présidé par Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste, eh bien, qui est vainqueur définitivement de Satan, qui a été précipité sur la terre, dont la tête a été écrasée par la Vierge Marie, mais dont la queue continue de faire des ravages dans notre monde. Et donc, je pense qu'en effet, c'est l'image par excellence, ce combat contre la vie et contre la vie naissante. C'est un avant-goût, certainement, du combat eschatologique. Marie, nouvelle Ève, la mère des vivants, c'est celle qui donne la vie par excellence, hein, et Jésus est celui qui est la vie. Et donc je crois que ce combat contre la vie naissante est le combat du dragon des origines qui continue aujourd'hui et pour lequel nous avons besoin de nous gendarmer de manière spirituelle, car c'est un combat spirituel. Et c'est vrai que je suis émerveillé de voir que l'Église prend conscience de plus en plus de la nécessité de combattre spirituellement, de demander l'intercession de la Vierge Marie, l'intercession de Saint Michel Archange et de tous les saints du paradis. Sainte Thérésa de Calcutta, qui vient d'être canonisée par le pape, l'un des points essentiels qu'il a rappelé en redisant sa vie de manière très synthétique dans l'homélie de sa canonisation, eh bien, justement, était de souligner qu'elle avait combattu pour la vie naissante et qu'elle considérait comme le plus petit, l'enfant qui n'est pas encore né, le plus petit, le plus pauvre, le plus misérable. Et on connaît ces déclarations tonitruantes en recevant le prix Nobel de la paix à Oslo en 1978, comme devant les Nations Unies en 1985 et dans bien d'autres occasions où elle dit sans embâge que c'est le plus grand destructeur de la paix que nous recherchons aujourd'hui et qui est tellement menacé, c'est l'avortement. Parce que lorsqu'une femme est appelée, malgré elle, bien souvent, on le sait, à tuer son propre enfant dans son sein, eh bien comment voulez-vous que les hommes ne s'entretuent pas eux-mêmes ?
Au respect de la vie naissante s'ajoute aussi, Monseigneur, de plus en plus aujourd'hui, n'est-ce pas, le respect de la vie finissante avec
absolument,
cette
absolument.
Tentation pour provoquer les législations sur l'euthanasie.
Ah, tout à fait, du début jusqu'au bout de la chaîne de la vie.
Monseigneur, quelles initiatives aimeriez-vous prendre en faveur d'un grand renouveau marial en France ?
Je pense qu'il y a aujourd'hui l'initiative que je voudrais prendre, personnellement, mais je sais qu'elle rejoint beaucoup d'autres initiatives, elle n'est pas de mon fait, c'est de créer un mouvement national de prière mariale pour la France. Je crois que nous sommes à un moment difficile de notre histoire, que la France a été visitée d'une manière privilégiée par la Vierge Marie, à des moments difficiles précisément de son histoire où la paix, où sa cohésion, où l'unité et la liberté étaient menacées et qu'il faudrait aujourd'hui que nous nous retrouvions tous ensemble pour prier la Vierge Marie. Alors j'avoue que j'appuie toutes les initiatives qui naissent aujourd'hui et qui sont très nombreuses de prière pour la France, ça va du chapelet des enfants qui est en train de renaître. Et en lien avec cette association, j'ai le désir de faire distribuer à tous les enfants du catéchisme une petite image et de permettre à ces enfants de s'engager à prier pour la France et leur famille par une dizaine de chapelets quotidiens. Et donc je pense que c'est très important que au moins de ce côté-là, il y ait un mouvement national de prière pour la France qui soit adressé à la Vierge Marie pour notre pays.
Je ne doute pas, Monseigneur, que de nombreux de nos auditeurs seront d'accord pour s'associer à ce mouvement de prière et pour le soutenir. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission en sachant à quel point vous êtes pris. Un grand merci encore, Monseigneur.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Voilà, au revoir.